Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, la contestation à Hong Kong.
Oui, encore une journée à suspense à Hong Kong avec un ultimatum de manifestants à l'exécutif pour qu'il retire définitivement son projet de loi d'extradition. Et semaine difficile pour la chef de l'exécutif Carrie Lam qui a dû suspendre le projet de loi qui risque sa place avec elle, les pro-Pékin qui font profil bas. Pour autant, le Parti communiste et Xi Jinping ont-ils vraiment plié? Eh bien, on voit ça avec vous Jean-Pierre Cabestan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone en direct depuis Hong Kong. Vous y êtes le directeur du département de sciences politiques de l'université Baptiste, auteur bien sûr de Demain la Chine, démocratie ou dictature chez Gallimard. Alors, je résume la situation. 10 jours de mobilisation, 3 manifestations massives, l'exécutif qui a finalement reculé dimanche en annonçant la suspension du projet de loi d'extradition controversé. Carrie Lam s'est excusée, cette chef de l'exécutif. Cependant, une partie des manifestations demande le retrait. Selon vous, l'exécutif a cédé ou temporisé?
Je crois que là, l'exécutif a clairement cédé. Alors évidemment, le projet de loi sur l'extradition est seulement suspendu, hein, et pas véritablement retiré, comme le demandent certains manifestants. Mais il est suspendu sine die. Il y a peu de chances qu'avant la fin de son mandat en 2022, Carrie Lam, s'il reste encore en fonction hein, jusque-là, puisse à nouveau le transférer au Parlement et le faire adopter. Donc c'est une victoire évidente pour la société de Hong Kong, pour tous ceux qui sont descendus, comme vous le dites, 3 fois dans la rue. Il y avait une manifestation prévue pour dimanche prochain, mais je pense qu'elle a été finalement suspendue et que la grande manifestation qui rassemblera tous les campants des démocrate favorable à la démocratisation de Hong Kong se réunira à nouveau le 1er juillet, jour de l'anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997.
Oui, donc lundi prochain. Alors, victoire pour la société de Hong Kong, défaite pour qui? Est-ce que c'est faux de dire que les pro-Pékin à Hong Kong, donc majoritaires au Parlement, agissent sur ordre de Pékin? On sait qu'il y a eu une rencontre, par exemple, entre le vice-premier ministre Han Cheng et Carrie Lam le 14, et ce qui a fait penser à certains que Pékin aurait ordonner le retrait à l'exécutif.
Oui, rien ne se fait ici à Hong Kong, tout au moins au sein du gouvernement, sans l'aval de Pékin. Pékin, d'abord, a un bureau chargé de Hong Kong et Macao au sein de son gouvernement central, mais il a aussi un bureau de liaison qui est situé à Hong Kong même et qui est en relation constante avec le gouvernement de Hong Kong. Donc rien ne se fait sans l'aval de ce bureau de liaison qui est l'antenne de Pékin sur le territoire. Donc la coordination est permanente et toutes les personnalités pro-establishment à Hong Kong s'exprime en général avec l'aval de Pékin ou en coordination avec le gouvernement central.
Et alors pour ce qui est de la société hongkongaise, peut-être c'est ça qui est le plus intéressant, c'est le détail de ces manifestants. À quoi selon vous est-ce que c'est heurté Pékin? Est-ce que c'est la continuation de ce mouvement des parapluies qui était quand même majoritairement étudiant en 2014, pro-démocrate, ou alors est-ce que c'est quelque chose de plus large? Pour l'instant on voit que c'est les étudiants hein, qui en c'est l'ultimatum pour le retrait.
Alors, les étudiants et la jeunesse sont à l'avant de ce mouvement et le guident véritablement hein, depuis la première manifestation le dimanche 9 juin. Mais ce mouvement est bien plus large puisqu'il a rassemblé 1 million de personnes le 9 juin et environ 2 millions de Hongkongais le 16 juin, ce qui veut dire que vous avez pratiquement un Hongkongais sur 3, 30% de la population qui est descendu dans la rue. C'est comme si en France vous aviez 20 millions de personnes dans les rues. C'est sans précédent, extraordinaire. Et ce que ça montre surtout, c'est que ce projet d'extradition est encore plus dangereux que la fausse proposition de démocratisation avancée par Pékin en 2014 et qui avait provoqué le mouvement des parapluies. Là, c'était vraiment une atteinte à l'ADN de Hong Kong. Une société libérale attachée aux droits de l'homme, aux garanties judiciaires, à l'indépendance des tribunaux et aux libertés publiques. Même si le territoire n'est pas complètement démocratique, il ne le sera jamais tant que vous avez un parti communiste qui préside aux destinées de la Chine, le territoire reste attaché à cette culture politique libérale et continuera de la défendre bec et ongles. Et c'est ce qu'on a pu voir ces 10 derniers jours.
Alors, culture politique libérale, justement, on voit effectivement, il y a un ensemble de secteurs de la société, ce qu'on appelle les netizens, les citoyens en ligne, des pro-démocrates, des chrétiens également. Ou alors, est-ce qu'on n'assiste pas à la naissance d'une sorte de nationalisme hongkongais là, parce qu'il y avait déjà eu des épisodes de crispation, on pourrait dire, civico-identitaire, comme par exemple la révolte des boulettes en 2016, les boulettes de poisson. Mais là, on assiste à quelque chose qui est plus fort quand même.
Oui, alors il faut se méfier du mot nationalisme. Je pense qu'il est certain que depuis le mouvement des parapluies, vous avez une montée des sentiments localistes et même d'un courant indépendantiste à Hong Kong qui reste, je pense, minoritaire. D'après les derniers sondages d'opinion, environ 40% des Hongkongais se sentent uniquement Hongkongais et donc pas chinois. C'est donc une nouvelle identité, comme vous l'indiquez, exclusive. Mais il reste une majorité de Hongkongais qui ont une double identité, c'est-à-dire à la fois hongkongaise et chinoise. Ils sont chinois, je dirais, de manière différente des Chinois de Chine continentale. Un petit peu, toute proportion gardée, comme les Taïwanais. On parle chinois, mais sont aussi attachés à la démocratie et à leur identité insulaire. Donc, à Hong Kong, je crois que ce qui va rester, et ce qui restera dans les années qui viennent, c'est une identité beaucoup plus marquée, culturelle, mais aussi politique, parce que rassemble les gens autour de valeurs politiques qui sont des valeurs démocratiques, et c'est ça qui fait la différence des Chinois de Hong Kong, des Chinois de Chine continentale, au moins de la plupart des Chinois de Chine continentale.
Et avec, vous l'avez souligné, quelques partis ou mouvements, disons, localistes qui sont nés il y a quelques temps, le HKNP, Parti National, par exemple. Alors, est-ce que c'est pas ça le coup politique, on pourrait dire, le plus important pour Xi Jinping et sa volonté, disons, d'unité, lui qui a beaucoup insisté à de nombreuses reprises sur l'unité entre la Chine continentale et puis ses régions autonomes.
Effectivement, pour le Parti communiste, c'est une défaite cinglante, je dirais, parce qu'il est défié sur son propre territoire par une société qui est attachée à d'autres valeurs politiques que le Parti communiste, à un moment où justement Xi Jinping essaie de renforcer l'emprise du parti sur tous les secteurs et de la société en Chine continentale. Donc le fossé, si vous voulez, entre la Chine et Hong Kong se creuse. À un moment où la Chine connaît un ralentissement économique, des problèmes sociaux, des problèmes assez importants avec les États-Unis autour des questions commerciales. Et donc, la marge de manœuvre de Xi Jinping est relativement étroite pour ce qui concerne Hong Kong. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des contre-coups et une volonté de vengeance de la part du Parti communiste. Mais je pense qu'aujourd'hui, leur marge de manœuvre est limitée, que la société hongkongaise reste très mobilisée et donc capable de résister à toute emprise supplémentaire de Pékin sur le territoire.
Et alors, à votre avis, combien l'exécutif hongkongais et puis peut-être Pékin vont-ils devoir céder? Il y a la question des accusations d'émeutes qu'il faudrait lever contre les manifestants, il y a la question des violences policières, et puis il y a la question de l'avenir de ce projet et de Carrie Lam elle-même.
Oui, alors c'est autant de questions qui restent sans solution aujourd'hui. Ce que j'observe, c'est quand même de la part du gouvernement une grande prudence. Ils ont remis à plus tard la discussion du projet de loi sur l'hymne national, ce qui est important parce que déjà ce projet de loi criminalisait toute atteinte ou toute injure à l'hymne national de la Chine populaire, auquel les gens de Hong Kong s'identifient difficilement. Donc ça a été reporté à l'automne. C'était une volonté aussi de calmer le jeu et surtout de montrer qu'ils restent encore en phase avec la société. Donc ils vont commencer à parler à la jeunesse et modifier une partie de leur modus operandi. Mais enfin, je pense que malheureusement pour Carrie Lam, sa confiance, la confiance que peut avoir la société dans son travail, dans son rôle politique, c'est définitivement atteinte.
Bon, et dernier petit point, certains analystes ont vu dans cette situation, disons, un présage funeste pour le rapport de force entre Xi Jinping et Taïwan, à qui il avait proposé ce modèle-là de un pays, deux systèmes à plusieurs reprises. Est-ce que vous êtes d'accord? Autant de points gagnés pour Tsai Ing-wen à Taïwan.
Oui, Oui, alors en tout cas, à court terme, oui. Il faut voir un peu comment les choses évolueront à Taïwan, parce que les questions économiques restent importantes pour la campagne électorale. Mais là, aujourd'hui, il est clair que Taïwan part avec une longueur d'avance pour l'élection présidentielle de janvier prochain.
Bon, bah écoutez, ce sera autant de questions passionnantes à suivre. Et merci beaucoup pour vos explications en direct depuis Hong Kong. Jean-Pierre Cabestan, directeur du département de sciences politiques de l'Université Baptiste et auteur de Demain la Chine, démocratie ou dictature. C'était publié chez Gallimard en 2018. Merci, bonne journée.